Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, réformer sans fracturer, enjeu du deuxième quinquennat Macron. Nous serons vent debout contre la réforme des retraites, prévient la CFDT. Et 13 pays européens s'opposent déjà à une réforme des traités européens souhaitée par Emmanuel Macron. Le président rassemble ce soir les candidats investis par la majorité pour les législatives à la France insoumise. Un retrait, celui de Taha Bouhafs, qui était candidat à Vénissieux. Sa candidature faisait l'objet de vives critiques sur le thème communautarisme. Quelle réforme de l'Europe ? La gauche est-elle prête à désobéir aux traités ? Deux députés européens de gauche sont nos invités à 13h30. L'écologiste David Cormand, la socialiste Nora Mebarek. L'union de la gauche et l'Europe, vos questions 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Les nouveaux mots du dictionnaire, wokisme, vaccinodrome ou encore le fromage halloumi. On en parle avec la spécialiste de ces nouveaux mots chez Larousse tout à l'heure. Dans l'actualité encore, la reine absente du discours du trône à Londres. Trop de mal à se déplacer, c'est Charles qui la remplace. Le couvre-feu au Sri Lanka, après les violences d'hier et la démission du Premier ministre. Les 30 degrés tutoyés ou touchés aujourd'hui en France, la semaine de chaleur continue. Et la curiosité du jour, un score de 22 buts à 1 lors d'un match régional de foot dans les Bouches-du-Rhône. Y aurait-il eu de la triche ? La vie la nuit, comme fil rouge de nos deux chroniques dans ce 13-14. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, quand la radio vivait la nuit. Et dans C'est une chanson, l'artiste travesti, Billy Larme à l'œil du cabaret Madame Arthur, sa chanson La nuit, je mens d'Alain Bachung. En cette mi-journée, pour l'instant, le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est un nouvel en même temps qu'a esquissé Emmanuel Macron hier à Strasbourg, à un peu plus d'un mois des législatives en France. Comment s'affirmer en chef du parti de l'Europe, ADN du macronisme, mais aussi entendre les réticences de beaucoup d'électeurs vis-à-vis de l'Union européenne. Devant les députés européens, le président réélu prononce ce qu'il appelle le serment de Strasbourg pour une Europe plus souveraine, unie, démocratique, ambitieuse et efficace.
Le deuxième grand chemin que je veux retenir, c'est celui de l'efficacité. Oui, répondre face aux crises avec force, clarté, rapidité et décisif. Il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. Et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin.
Voilà, à l'heure où la gauche unie propose en France de déroger, voire désobéir aux règles d'une Europe jugée trop libérale, à l'heure où les électeurs de Marine Le Pen la suivent dans ses critiques de l'Union européenne, Emmanuel Macron propose donc de la réformer de l'intérieur. Lui qui s'adresse au candidat macroniste déjà investi pour les législatives ce soir à Aubervilliers. Changer les traités donc pour être plus efficace, plus rapide, fin de l'unanimité qui aboutit à des blocages dans les grandes décisions européennes. Il souhaite en discuter avec les autres chefs d'État et de gouvernement dès le Conseil européen du mois prochain. Sauf que, bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, Pierre, sauf que l'Europe se fait à 27 et déjà la moitié des pays membres, 13, s'opposent à une réforme des traités.
Effectivement, 13 pays, c'est beaucoup et on compte dans l'eau tous les Baltes, tous les Scandinaves, aux côtés de 7 pays d'Europe centrale et orientale plus Malte. Une géographie qui les oppose d'autant plus à l'ouest de l'Europe que les réactions positives sont essentiellement venues des pays fondateurs de l'UE. Sur la réforme de la règle de l'unanimité, Emmanuel Macron a reçu un soutien marqué de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sur l'idée d'une communauté politique européenne qui serait une antichambre, un deuxième cercle autour de l'Union, le soutien est venu par exemple du chancelier allemand Olaf Scholz ou de l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, mais les 13 signataires de la lettre ouverte sont opposés à toute renégociation des traités. Ils ne veulent pas rouvrir cette boîte de Pandore. En tout cas, pas maintenant. Pour eux, c'est prématuré. Il ne faut pas gaspiller l'énergie politique nécessaire pour affronter des questions plus urgentes, comme le défi géopolitique économique à l'Est avec l'agression russe. Et selon eux, les règles actuelles de l'Union ont montré, par exemple, pendant la pandémie, qu'elles étaient suffisamment souples pour faire face aux crises. Et pour réformer les traités ou abandonner l'unanimité entre Européens, il faudrait le décider à l'unanimité.
On verra quelle sera l'ambiance au sommet européen des 23 et 24 juin. Pierre Benazet, on retourne à Bruxelles à 13h30 avec deux députés européens. Le deuxième quinquennat Macron sera-t-il réformateur sur un autre grand sujet ? Les obstacles se dessinent déjà. La réforme des retraites. Laurent Berger était ce matin l'invité de France Inter et lui qui est à la tête du premier syndicat français averti.
La CFDT sera vent debout. Parce que ça touche les publics, les travailleurs les plus fragiles aujourd'hui. C'est eux qui seront d'abord impactés par cette mesure.
Et ce sera un automne social dur si Emmanuel Macron fait passer cette réforme. Vous irez dans la rue, vous bloquerez le pays s'il le faut.
Ce matin sur votre antenne, il y a un problème de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre et de sens dans notre pays extrêmement important. Mettre la question de la réforme des retraites cet automne sur la table, alors qu'on sait qu'on aura encore un problème de coût de l'énergie, on ne sait pas dans quelle situation internationale on sera, et qu'il faut s'inscrire dans un partage des richesses autre et une autre des modèles de développement. Mettre ça sur la table à l'automne, c'est explosif.
Et pour le pouvoir d'achat, Laurent Berger appelle à des hausses de salaire, conditionner les aides publiques aux entreprises au fait d'avoir une grille de salaire au-dessus du SMIC. Il plaide aussi pour des mesures ciblées pour les plus modestes, ou encore un impôt exceptionnel sur les très hauts revenus pour aider les jeunes. La campagne législative, on y revient dans quelques minutes. D'abord ceci, c'est toujours un révélateur des petits et grands mouvements de société. Les nouveaux mots des dictionnaires. Larousse donne les siens aujourd'hui. Bonjour Karine Girac.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du département langue française, dictionnaire et encyclopédie aux éditions Larousse. L'édition 2023 du Petit Larousse sera bientôt en librairie. Ce sera le 15 juin. Mais on a déjà quelques informations intéressantes à propos de cette nouvelle édition. 150 nouveaux mots, c'est bien cela?
Tout à fait.
Et on regarde toujours au fond ce qu'il raconte de l'évolution de la société. Il est encore beaucoup question de la pandémie à travers ces nouveaux mots.
Tout à fait. On a là vraiment la fin de la pandémie. On a des mots qui concernent effectivement, par exemple, la notion de cas contact, la notion de passe sanitaire, bien sûr, de passe vaccinal. Le vaccinodrome a fait son entrée.
Oui.
Également les commerces, un nouveau sens avec les commerces essentiels.
Oui.
Les pays frugaux aussi. Donc on voit vraiment encore les dernières en fait appellations qui sont liées au Covid et à la pandémie.
Et les scientifiques, qu'ils soient rassuristes ou enfermistes, alors qu'est-ce que c'est qu'un enfermiste et un rassuriste?
Eh ben, effectivement, c'est deux visions un peu qu'on a pu voir lors de cette pandémie. Les rassuristes qui étaient plutôt, comme leur nom l'indique, qui étaient plutôt positifs et qui avaient tendance à essayer de rassurer la population française et internationale. Et puis, à l'inverse, les enfermistes qui préconisaient plutôt des mesures d'isolement de façon à ne pas transmettre le virus d'une personne à une autre.
Et l'enseignement en distanciel fait également son apparition dans le Larousse. Comme chaque année, on mange pas mal dans le Larousse aussi, Madame Girac.
Tout à fait. Alors, je dirais même que cette année, on mange un peu plus.
Bon.
Étonnamment, on a à la fois des mots qui montrent que l'on prend soin en fait de notre alimentation. On cherche avec les lentilles corail, avec le dalle, à avoir des légumineuses qui vont nous permettre d'avoir de beaux apports énergétiques.
Voilà, le dalle, j'ai la définition sous les yeux. Plat à base de légumineuses et d'épices, souvent préparé avec des lentilles corail ou des lentilles jaunes.
Tout à fait. Voilà. Et puis on a aussi des nouveaux mets, des nouveaux par exemple fromages comme le halloumi et le lamenay, qui sont des fromages plutôt avec du lait de brebis et qui viennent pour l'un de Chypre pour le fromage halloumi et puis pour l'autre du Moyen-Orient.
Et pour les amateurs de pâtisserie, je vois que le craquelin fait également son apparition et le citron caviar au rayon fruits et légumes.
Tout à fait. Pour les pâtisseries, le citron caviar, je crois que ça donne une petite amertume qui est très recherchée des grands pâtissiers.
Évidemment, nos sociétés évoluent sous le poids des nouvelles technologies et ça se voit aussi dans le Larousse.
Ça se voit. Alors cette année, je trouve que la grande nouveauté dans cette photographie de la langue française qu'est le Petit Larousse, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont liées plutôt aux jeux vidéo. On a moins de choses sur les logiciels, sur le monde numérique qui nous entoure, parce que peut-être on a eu déjà beaucoup de mots les années précédentes. Et là, on est plus sur la jouabilité, la rejouabilité, la ludification également de certains programmes scolaires même, pour les rendre plus interactifs avec les élèves et du coup, peut-être pour avoir un enseignement plus dynamique.
Des mots du sport aussi et des arts, de la littérature, chiclit pour les romances urbaines, la K-pop, la pop coréenne, le MMA, le nouveau sport, le nouvel art martial. Comment choisissez-vous ces nouveaux mots ?
Alors, il y a deux critères qui sont très importants. Le premier critère, c'est un critère quantitatif. Il faut que le mot soit, qu'on ait pu voir qu'il était très attesté, qu'il soit des millions de fois utilisé, qu'il y ait beaucoup d'occurrences. Et le deuxième critère, c'est un critère plus qualitatif. C'est qu'il faut que le mot, si vous voulez, ait été perçu dans différentes strates de la société française.
Oui.
Pour que vraiment il soit généraliste. Vous voyez, il faut que les utilisations soient généralistes. Donc, on se sert beaucoup notamment des médias comme la radio, la presse écrite et le audiovisuel.
64 000 mots dans ce Larousse 2023, 28 000 noms propres. Quelles sont les personnalités qui font leur entrée ?
Alain Damasio, cette année, également Florence Zeller, nous avons également François Morin, qui fait son entrée dans le Petit Larousse, Roche Dizem également, nous avons pour la couture et la haute couture, Olivier Rousteing, en gastronomie Thierry Marx, et puis en musique une chef d'orchestre féminine, Emmanuelle Heim.
Et c'est bien l'ami François Morel qui fait son entrée dans le Petit Larousse 2023 cette année. On l'embrasse au passage. Le dictionnaire sort le 15 juin prochain. L'entretien avec Karine Girac, directrice du département langue française, dictionnaire encyclopédie chez Larousse. Cet entretien a été enregistré en fin de matinée. Un dictionnaire, cela peut être utile pour les plus de 500 000 candidats au bac. La QV 2022 commence demain avec les épreuves écrites de spécialité. Mais il y a un problème. Regardez par la fenêtre. Le temps, se motiver pour réviser quand il fait beau dehors, enjeu éternel des candidats au bac. Voici la version 2022. 27 degrés attendus cet après-midi à Chambéry où Mélanie Tournadre, France Bleu Pays de Savoie, vous avez croisé quelques dilettantes.
Elliot, 17 ans, va passer les épreuves de SES et SVT, mais il a plutôt envie de...
Tout sauf réviser, sortir, être au lac, profiter.
Et il est loin d'être le seul.
J'ai envie d'aller m'amuser, de voir des potes et faire des soirées, quoi.
Surtout qu'il fait super beau, du coup j'ai plutôt envie de profiter. Dehors.
Certains terminales tentent de joindre l'utile à l'agréable.
Je suis allée au lac, j'ai révisé aussi. On fait un peu comme on peut. Hein.
On peut réviser qu'une bière, hein, toujours.
Et même quand cet ado chambérien essaye de réviser seul à la maison.
On est souvent distrait, quoi.
Par quoi ?
Par les autres. Hein. Et ils nous envoient des petits messages, tu réponds, quoi.
Instagram, Facebook, Discord, pire que le soleil et la chaleur, Gabriel lui a trouvé une technique.
Je me mets dans une pièce à part où il n'y a pas mon ordi, il n'y a pas mon portable et... Et voilà.
Que ce soit les épreuves de maths, de langue ou encore d'histoire géo, ces terminales n'ont pas du tout l'air angoissées.
L'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de cours, etc. Donc je pense qu'ils vont être plutôt indulgents sur les notes. Donc moi, je stresse pas plus que ça. Donc ça va.
C'est plutôt une formalité, donc je pense que ça va le faire.
J'ai l'impression que cette année, c'est vraiment tranquille pour tout le monde.
Dans ce bac nouvelle formule, le contrôle continu compte quand même pour 40%.
Et on retrouve la météo d'Élodie Calac. Dans quelques minutes, on parlait du Larousse. Il y a quelques instants, les mots séparatisme et wokisme font leur apparition cette année. Et on en revient aux législatives. La France insoumise constate le retrait d'un de ses candidats. Taha Bouafs, qui avait été investi à Vénissieux en banlieue lyonnaise, il dénonce des attaques sans précédent contre lui. Ce qui lui était reproché à ce jeune homme de 25 ans, c'était une condamnation dont il a fait appel pour avoir traité une syndicaliste policière d'arabe de service. En octobre 2019, il avait aussi fustigé les pouilleux de Charlie Hebdo. Il était de la manifestation contre l'islamophobie. Un profil woke qui ne passait pas, entre autres, auprès du une partie de la gauche nouvellement unie, le communiste Fabien Roussel, parmi les derniers en date. Une meute s'est acharnée contre Taha Bouafs, s'estime Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce des menaces de mort, des mises en cause publiques quotidiennes. Alors comment ce fait de campagne est-il vécu dans sa circonscription de Vénissieux ? Élément de réponse avec ce reportage de Ninoc Louis.
Un retrait salué à gauche par la maire de Vénissieux, la communiste Michèle Picard, qui menait une campagne dissidente. Elle appelle désormais au rassemblement autour d'elle.
La raison l'a enfin emportée. Moi, j'aimerais commencer une campagne où on arrête de parler du candidat qui était donc clivant. Nous souhaitons que la NUPES nous reconnaisse enfin comme candidat. Et nous attendons donc son soutien.
Le candidat de la majorité présidentielle, le député sortant Yves Blin, appelle lui à l'apaisement.
C'est pas mon sujet. J'ai confiance dans le fait que les électeurs de cette circonscription donneront au président de la République les moyens de la stabilité. On s'improvise et on va monter un ring de boxe. C'est pas mon sens de la politique.
De son côté, Olivier Minou de Lutte Ouvrière dénonce les méthodes qui ont été utilisées.
Tabouaf était investi par l'accord de NUPES. Par contre, on tient à dénoncer un peu toute la campagne raciste derrière sa candidature et puis souligner qu'il y a d'autres candidats qui ont aussi des casseroles.
Contacté, ni Taha Bouafs ni son directeur de campagne n'ont pour l'instant répondu. Dans un communiqué, le désormais ex-candidat dénonce une tempête d'attaques sans précédent à son encontre. Le candidat Rassemblement National, Damien Monchaud, regrette ses réactions tout en dénonçant celles de la France Insoumise.
On ne peut que se réjouir du décidement de ce candidat, mais je remarque que Jean-Luc Mélenchon arrive encore à regretter le fait qu'il sortirait. C'est dire si cette dérive que l'on constate chez la France insoumise est assez forte.
Pour le candidat Reconquête, Bruno Attal, cet abandon ne suffit pas car c'est tout le parti qui pose problème.
Pour moi, la France insoumise et ceux qui l'ont suivi aujourd'hui sont sortis du champ républicain, ce ne sont pas des républicains. Alors, effectivement, Taha Bouaf était l'arbre qui cache la forêt, mais il reste quand même le représentant de ce qu'il y a de pire, je dis bien de pire, dans notre pays.
Les candidats restants appellent désormais à démarrer la campagne sur le terrain et loin des polémiques.
L'unité de la gauche et ses fragilités à un mois des législatives. législatives, le rapport à l'Europe aussi à 13h30. Toutes vos questions à deux députés européens, une socialiste et un écologiste, Nora Mebarek et David Cormand, tous deux partisans de l'accord avec la France insoumise. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions. En Grande-Bretagne, la photo du jour, c'est un trône vide. Pour la première fois en près de 60 ans, la reine n'a pas prononcé ce matin le discours au trône. Elle y présente le programme du gouvernement devant le Parlement britannique. Chaque année, c'est un des moments forts de la vie publique. Mais Elisabeth II, 96 ans, jubilée de platine, 70 ans de règne début juin, a des difficultés à marcher. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
C'est donc le prince Charles qui l'a suppléé.
Oui, dans son uniforme d'apparat installé sous les dorures de la Chambre des Lords, la couronne posée juste à côté de lui. À 73 ans, le prince Charles a rempli cette fonction très officielle pour la première fois. Il lit en fait une lettre écrite par le gouvernement et qui fixe la politique générale pour l'année à venir. Il s'agit en quelques mots à chaque fois des projets de loi qui seront débattus et votés dans les prochains mois. Depuis 70 ans, c'est donc Elisabeth II qui officie. Elle n'avait raté ce rendez-vous que deux fois parce qu'elle était enceinte. La dernière fois, c'était il y a 59 ans, c'est dire si elle est assidue. Et pour ces deux absences, c'était le grand chancelier qui s'était acquitté de cette tâche. Cette fois, c'est donc son fils aîné, le prince Charles, son successeur désigné. D'ailleurs, la presse parlait ce matin d'un passage de témoin symbolique aujourd'hui, mais le futur roi a tenu à marquer une distance sémantique, mais importante. Normalement, la reine égrène les sujets en disant « my government », mon gouvernement. Mm-hmm. Le prince Charles, pendant la dizaine de minutes qu'a duré sa prise de parole, parlait de « Her Majesty's Government », le gouvernement de sa majesté. Elisabeth II est bien toujours là.
Merci Richard Place, en direct de Londres, voilà pour la Grande-Bretagne. Dans le même temps, un des états du Commonwealth est en train de se déchirer, le Sri Lanka, au sud-est de l'Inde. Nous ne quitterons pas le pays, dit le fils du Premier ministre qui vient de démissionner. Il dit « nous » car c'est une famille qui tient le pays depuis quasiment deux décennies à Colombo, les Rajapaksa. 22 millions d'habitants au Sri Lanka, la crise économique la plus aiguë depuis l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Et après des manifestations qui ont fait 5 morts hier, le couvre-feu est déclaré. Correspondant dans la région, Sébastien Farcy.
Tout a commencé quand des centaines de militants du parti au pouvoir ont foncé sur les manifestants qui campaient pacifiquement au centre de Colombo et les ont tabassés à coups de matraque. La police ne les a pas empêchés, elle les a plutôt protégés quand les manifestants ont répliqué. Cette attaque a libéré la rage des manifestants contre la dynastie au pouvoir des Rajapaksa contenue depuis des mois. Dans la nuit, des personnes ont en effet brûlé une dizaine de maisons de députés proches du pouvoir et l'une des Rajapaksa. Un député, arrêté par une foule en colère, a sorti un revolver et tué deux personnes avant de se suicider. Un couvre-feu national a été imposé en plus de l'état d'urgence instauré depuis ce week-end qui offre à l'armée davantage de pouvoir, mais certains manifestants semblent trop en colère pour respecter ces mesures. Il règne donc un inquiétant air d'anarchie au Sri Lanka et la démission du Premier ministre n'a calmé personne car ce que veulent les protestataires c'est la démission du tout-puissant président Gotabaya Rajapaksa, tenu responsable de cette crise économique inédite. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
À propos de manifestations, les courageuses du jour, saluées par l'agence France Presse, 5 femmes ont défilé le visage découvert ce matin dans les rues de Kaboul en Afghanistan pour protester contre l'obligation de port de la burqa en public imposée aux femmes par les talibans. La guerre en Ukraine, plus de 2 mois et demi, et la ville de Kiev un peu plus épargnée ces derniers jours et semaines. Près des 2/3 des habitants sont revenus, selon le maire de la capitale ukrainienne. A priori, ces deux hommes ne sont pas faits pour s'entendre. D'un côté, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla, les voitures électriques de luxe, qui veut racheter le réseau social Twitter et en faire l'espace de la plus grande liberté d'expression. De l'autre côté, Thierry Breton, commissaire européen chargé de la régulation du marché intérieur. Et Bruxelles ne veut pas d'un Twitter où l'on pourrait dire tout et n'importe quoi. Eh bien, l'Européen a rendu visite à l'Américain dans l'usine Tesla d'Austin, Texas. Et Elon Musk a semblé faire profil doux. C'est la photo baroque du jour, Laurent Kramer.
Oui, il suffit d'une simple visite pour aplanir nos divergences, se réjouit Thierry Breton. Deux hommes que tout oppose dans leur conception de l'espace numérique. Aucune censure ne sera possible sur mon Twitter, expliquait jusqu'ici Elon Musk. Twitter doit et devra se plier comme tous les GAFA à la nouvelle réglementation européenne sur la modération du contenu. Le Digital Service Act, répondait alors le commissaire européen Thierry Breton. Et pourtant, cette nuit au Texas, après la visite du commissaire européen dans son usine Tesla, le milliardaire a mis un genou à terre.
Je suis vraiment d'accord avec vous. Nous avons eu une discussion formidable. Et nous sommes sur la même ligne, en fait. Tout ce que mes entreprises pourront faire au bénéfice de l'Europe, eh bien, nous, on le fera.
Thierry Breton affiche alors un sourire de victoire face au patron de Tesla et prochain propriétaire de Twitter. Sa loi sur les contenus numériques n'est donc pas négociable. Le commissaire européen précise même « Je crois que vous avez bien compris » et souligne au passage qu'Elon Musk, qui fait le commerce de ses Tesla en Europe, connaît parfaitement la réglementation européenne, à lui donc de respecter la loi pour Twitter, comme il le fait pour ses Tesla.
Et le patron de Tesla se réjouira de la dernière étude en date sur la part des voitures électriques parmi les voitures neuves en Europe de l'Ouest, 22% au premier trimestre, en hausse de plus d'un point. La voiture électrique monte en régime et même dans le sport automobile. L'obligation de tenir compte de l'environnement progresse un tant soit peu. Dans le championnat du monde d'endurance, les voitures style 24 heures du Mans, on utilise désormais un carburant de synthèse, pas de pétrole. Reportage de Didier Charpin lors des 6 heures disputées à Spa-Francorchamps en Belgique il y a quelques jours.
En apparence, les voitures sont identiques à celles de l'an dernier. Couleur rouge pour Ferrari, bleu pour Alpine. La grande différence, elles penchent vers le vert, sous le capot, dans le réservoir.
C'est un carburant 100% renouvelable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie fossile dedans. C'est de l'éthanol et des résidus vinicoles. Total nous a proposé ce carburant et c'est le progrès.
Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans et pilier du championnat du monde d'endurance, n'a pas hésité l'année dernière quand il a reçu cette proposition de lancer ce carburant. Mais il restait une étape cruciale à valider. Les performances des voitures avec ce nouveau carburant sans une goutte de pétrole. Deux courses ont été disputées depuis le début de la saison et le bilan est plutôt satisfaisant.
Ça s'est traduit par une toute petite augmentation de consommation. On parle de l'ordre de entre 1 et 3%, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et en termes de puissance, il y a eu une petite perte qui est négligeable. D'ailleurs, on le voit bien, les temps retour ne sont pas très différents de ceux de l'année dernière.
Dans un mois, ce carburant à base de résidus vinicoles sera utilisé pour la première fois aux 24 heures du Mans. Selon Pierre Fillon, il permettra de réduire de 70% le bilan carbone de la course.
Et pour ceux qui roulent au diesel, là je parle des automobilistes lambda, le coût du plein augmente à nouveau. 1,94€ en moyenne en France, le litre selon les derniers relevés. Même si le virus est moins agressif, 19 départements français présentent toujours un risque élevé à la grippe aviaire. Premier concerné, la Vendée, avec 533 foyers. Il y en a 231 dans les Landes. Et dans ce département, ainsi que dans le Gers, une expérience de vaccination des palmipèdes commence aujourd'hui. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Que sait-on de l'efficacité d'un vaccin contre la grippe aviaire?
Eh bien, c'est ce que cet essai préclinique doit justement dire, car il s'agit bien encore de recherches menées sur des élevages non touchés. Des vétérinaires vont inoculer à des milliers de jeunes canards mulards et d'oies deux candidats vaccins. Comme chez les humains, il y aura un groupe témoin de palmipèdes non vaccinés. Jean-Luc Guérin, responsable à l'école vétérinaire de Toulouse de cet essai, détaille le protocole.
L'idée, elle est d'une part de tester la faisabilité, la praticabilité, si vous voulez, de la vaccination. Ensuite, pour l'inocuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sur la croissance des animaux, sur le comportement des animaux. Et ensuite, la réponse sérologique, donc on va faire un suivi des anticorps. Et puis, une petite partie, quelques dizaines d'animaux, vont faire l'objet, en conditions contrôlées, ce qu'on appelle une épreuve virulente, pour vérifier si l'exposition au virus entraîne ou pas une maladie.
Et si le vaccin est efficace ou non? Il n'existe à ce jour aucun vaccin contre la grippe aviaire autorisé par l'Europe. Et pour cause, explique Barbara Dufour, professeure de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort.
Chaque année, ce ne sont pas les mêmes souches d'influenza qui circulent. Et donc, ce ne sont pas les mêmes vaccins qui seraient efficaces pour les souches circulantes. Donc, c'est compliqué. La deuxième raison, c'est que la vaccination, en diminuant d'ailleurs de manière efficace l'excrétion, elle, malheureusement, elle peut conduire à masquer la circulation de certaines souches.
En clair, si la maladie ne se voit plus, mais qu'elle est toujours présente à bas bruit, alors on ne pourra pas dire que le vaccin a réglé l'épisode aussi. La question est d'importance, car elle conditionne toute la filière d'exportation, certains pays refusant d'acheter des volailles vaccinées contre ce virus de l'influenza.
Allez, un mot à présent de ce curieux score pour un match de football. 22 buts à 1. C'est le FC Septem, un club des Bouches-du-Rhône en Régional 2 qui a encaissé les 22 buts. C'est la 7e division française. Le vainqueur, c'est Arles. Et ce score inhabituel permet à Arles, tiens, de devancer son concurrent Martigues en tête du championnat
à la différence de but. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Bruno.
Ça sent le match arrangé, une enquête va être ouverte.
On nous accuse, mais on aurait pu prendre 30 ou 40 buts. Voilà comment le président du FC Septem balaye ses accusations de corruption. Salah Nasri explique que son équipe, déjà reléguée à l'échelon inférieur, est totalement démobilisée en cette fin de saison, qu'il a fallu aligner l'équipe réserve et que ce score, donc 22 buts à 1, est finalement assez logique.
Il y avait l'entraîneur de la réserve qui jouait, il a pratiquement 50 ans. On a ressorti un éducateur à nous, 47 ans. Est-ce que je suis, moi, pardon de vous le dire, assez con pour faire un match arrangé avec un score aussi faible pour mettre la lumière sur moi et mon club? Franchement.
Alors pourquoi dans ce cas-là ne pas tout simplement déclarer forfait, s'interroge le club lésé, le FC Martigues, victime de la situation, hein, puisqu'avec ce score, Arles prend la tête du classement et de la course à la montée. À la différence de but, le président de Martigues, Alain Nercession, se pose quand même de sérieuses questions.
Moi, j'attends des instances du football qu'elles lèvent tout doute, tout soupçon. Forcément, quand on parle football et qu'on annonce 22 à 1, ça fait réagir.
Voilà, en tout cas, ça fait déjà réagir la Ligue Méditerranée qui a décidé de geler le score de ce match en attendant l'ouverture probable d'une enquête.
Vous avez fait le calcul, hein, ça fait un but toutes les 4 minutes, hein, 22 à 1. Merci Nicolas Perronnet. Loin de ce match bizarre, la course au titre de champion continue en Angleterre. Liverpool à 3 points du leader Manchester City joue ce soir sur le terrain d'Aston Villa. Qu'est-ce que les 195 millions de dollars dépensés par un acheteur chez Christie's à New York nous disent de l'époque? 195 millions pour s'offrir un portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol. Elle devient l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle devant les femmes d'Alger de Picasso. Marilyn, Andy Warhol, deux icônes de la modernité réunies sur un tableau et dans un énorme chèque. Réflexion d'Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomie, le site web de Philosophie Magazine. Elle est avec Isabelle Pasquier.
C'est un paradoxe, c'est-à-dire que finalement, Andy Warhol, en mettant en scène Marilyn Monroe, dès le départ, il a voulu, entre guillemets, faire une sorte de pied de nez à ce qu'était l'œuvre d'art au sens classique. Déjà, en mettant en scène une figure non noble, voilà, une figure issue de la pop culture, une actrice véritablement populaire d'une part. Ensuite, d'autre part, il avait représenté une affiche de promotion au départ, hein, c'était une pub pour le film Niagara, et ainsi il avait finalement reproduit une photo qui était déjà donc une reproduction, et paradoxalement faisant de cette image un peu vulgaire une icône avec une forme finalement d'aura quasiment religieuse, avec les couleurs très saturées qu'il avait utilisées. Et en la désacralisant, en la reproduisant à l'infini, il en a fait paradoxalement une icône.
Voilà, Anne-Sophie Moreau avec Isabelle Pasquier. L'œuvre d'art la plus chère, toutes époques artistiques confondues, reste le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, 450 millions de dollars en 2017. La météo d'Élodie Calac dans un instant.
Suivez le fil infernal du nouveau roman de Franck Tillier. Une enquête en forme de labyrinthe. Un seul témoin, amnésique. Trouverez-vous l'issue? Découvrez Labyrinthe de Franck Tillier chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page son univers.
Innovation des laboratoires Lierac. Arkeskin, le programme visage et corps recommandé par les gynécologues pour corriger les signes de la ménopause sur la peau. Des résultats prouvés par 7 études cliniques et tests consommateurs. Plus de 95% des femmes trouvent leur peau nourrie, redensifiée et moins marquée. Grâce à Arkeskin, 9 femmes sur 10 se sentent mieux accompagnées. En ce moment, pour l'achat d'un soin Arkeskin jour, votre soin complémentaire nuit offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur lirac.com. Détails des tests cliniques sur lirac.com.
France Inter aime
l'exposition Gaudi au Musée d'Orsay à Paris. Une plongée dans l'œuvre de l'un des architectes les plus célèbres au monde pour la première fois en France depuis 50 ans. De l'intimité de sa démarche créatrice à ses réalisations les plus iconiques, l'esthétique du maître catalan y est transposée à travers une variété d'œuvres allant de la photographie au mobilier, en passant par des maquettes, moulages et dessins d'architecture. L'exposition Gaudi jusqu'au 17 juillet au Musée d'Orsay à Paris, un partenariat France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est ensoleillé et très chaud pour la saison.
Oui, les averses, les températures s'envolent. Cet après-midi, les averses se font attendre. 31 degrés à Bordeaux, à Cognac, 29 à Paris, à Tours, à Lyon, à Montauban et à Tarbes. 27 attendus à Reims, à Mulhouse et à Marseille. 26 pour Lille ou pour Nantes. Il fait quand même moins chaud près de la Manche avec 21 degrés à Dieppe, à Dinard, 17 à Cherbourg. Alors tout ça sous le soleil le plus souvent. Un peu voilé quand même de l'Occitanie vers le nord-est. En montagne, des nuages bourgeonnent. Une averse n'est pas exclue sur la Corse, sur les massifs de l'Est, en particulier sur le sud des Alpes. Sur l'ouest de la Bretagne et la pointe du Cotentin, là on a des nuages plus nombreux en lien avec une perturbation, mais on attend tout au plus quelques gouttes sur la pointe bretonne. Donc pas grand chose à prévoir au niveau des précipitations.
Et demain, est-ce que les températures vont baisser un peu ?
Ça va baisser un petit peu sur le nord-ouest. En revanche, du sud-ouest vers le centre Val-de-Loire et les régions de l'Est, on atteindra souvent les 30 degrés, jusqu'à 32 même attendus à Auch. Jeudi, petite atténuation avec un risque d'averses orageuses du nord de l'Aquitaine vers les régions du nord-est. Et puis, nouvelle hausse des températures pour la fin de la semaine. Donc, c'est pas fini.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Faut-il et comment réformer l'Europe pour la rendre plus démocratique, plus immédiatement compréhensible pour ses 450 millions d'habitants ? Alors que la gauche unie pour les législatives envisage de désobéir ou déroger à certaines règles européennes pour rendre l'Union moins libérale, le président de la République a prononcé hier ce qu'il a appelé le serment de Strasbourg pour une Europe plus efficace et indépendante. Cela passerait par une réforme des traités, moins de décisions à l'unanimité des 27 membres pour éviter les blocages. Emmanuel Macron intervenait devant le Parlement de Strasbourg alors que s'achevait la conférence sur l'avenir de l'Europe, un exercice de démocratie participative comme l'époque semble le demander. 800 citoyens de l'Union ont travaillé avec des élus, des représentants de la société civile et ils demandent plus de moyens pour l'agriculture bio. Vous savez que la politique agricole est le principal poste de dépenses européen. Ils veulent aussi le vote des 16 ans aux élections européennes et le Parlement européen avec la possibilité de proposer des lois et pas seulement les voter. Réformer l'Europe ou lui désobéir ? Au carrefour de ces deux chemins, nos invités sont tous deux députés européens, de gauche favorables à l'accord passé avec la France insoumise. David Cormand, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, élu au Parlement de Strasbourg depuis 3 ans, et Nora Mebarek, membre du Parti Socialiste, élu elle aussi en 2019. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes en duplex depuis nos bureaux de Bruxelles. Merci à Pierre Benazé qui est à vos côtés et qui nous permet de vous entendre. Les auditeurs de France Inter peuvent dialoguer avec vous. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, la réforme de l'Europe, l'union des gauches, à quel prix avant les législatives ? Voilà pour notre sujet. Question à tous les deux. David Cormand, peut-être d'abord, qu'est-ce qui manque à l'Europe aujourd'hui ?
D'abord, ce qui lui manque, c'est d'être une démocratie achevée. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui n'a que quelques décennies, hein, qui a un peu plus de 70 ans, c'est un outil politique qui est très insatisfaisant d'un point de vue démocratique. Pourquoi ? Parce que les seules personnes qui sont directement élues pour s'occuper de l'Union européenne, c'est nous, c'est les parlementaires européens. Mmh. Le peuple européen, dans chaque pays, il élit des députés européens. Et quand on vote des trucs au Parlement européen, c'est pas nous qui décidons sur tout. À la fin, il y a une autre instance qui s'appelle le Conseil, et là, c'est les bons vieux États-nations. Mmh. Et eux, ils peuvent décider que ce qu'on a voté, ça s'applique pas. C'est pour ça que la Convention sur l'avenir de l'Europe, elle est intéressante, parce que vous voyez, par exemple, les citoyens, quand ils comprennent ça, et les 800 citoyens qui ont été tirés au sort, j'imagine qu'ils ont discuté de ça, ils disent, bah, il faut une capacité d'initiative de la part du Parlement. Ça peut pas être que les États et que la Commission, c'est l'équivalent du gouvernement, oui, qui décident de qui et sur quoi on doit faire des lois.
Nora Mebarek, vous êtes d'accord avec cela, l'Union européenne, démocratie inachevée, on peut faire valoir qu'après tout, les gouvernements représentent aussi les populations, ils sont issus des élections législatives.
C'est vrai, mais comme vient de le dire David Cormand, il y a à la fois une démocratie inachevée et surtout une méconnaissance du fonctionnement de l'Union européenne parce que elle est assez opaque par l'ensemble des citoyens. Donc chaque 5 ans, les citoyens européens sont appelés à voter pour leurs parlementaires sur un projet. Et ce projet a des fois beaucoup de mal à se mettre en œuvre. On l'a vu encore la semaine dernière sur le vote, sur l'amendement contre le chalut, sur les fonds marins, où finalement les petites organisations et les petites négociations, conseil, commission et groupes politiques, aboutissent à quelque chose d'opaque et qui fait que les 800 citoyens tirés au sort, qui d'ailleurs c'était très intéressant cette démarche de tirage au sort parce qu'en fait on sortait de l'entre-soi, disaient, ont mis 3 mois à comprendre comment fonctionnait institutions européennes avant de pouvoir faire des propositions. Et donc, c'était très intéressant de voir à l'œuvre des citoyens qui finalement étaient encore plus demandeurs de démocratie, de transparence.
Ah bah allez-y, racontez-nous, parce qu'honnêtement, cette convention citoyenne, alors c'est très à la mode, la démocratie participative, mais cette convention citoyenne, elle était passée complètement sous les radars jusqu'à hier. Hein.
C'est vrai. D'abord, elle a été annoncée avant la pandémie par Emmanuel Macron et sur une volonté certainement de qui n'était pas liée à l'élection présidentielle, mais une vraie volonté de faire un projet européen et faire en sorte que les citoyens s'organisent. Mais quand on a été installé après le pic de la pandémie, eh bien la commission qui avait la charge d'organiser les tirages au sort ne savait pas trop faire, parce que nous on a un savoir-faire français avec la démocratie participative, c'est pas une obligation au niveau européen et encore moins sur des boîtes de consultants américaines hein, qui donc s'est chargée du tirage au sort. Et donc pendant les trois premiers mois de la conférence, on a été installé en septembre et les citoyens nous ont déjà rejoints au mois de novembre.
D'accord.
Ça c'est déjà la difficulté du décalage. La deuxième chose, c'est que les citoyens tirés au sort pouvaient ou pas évidemment venir. Troisième élément, c'est qu'on est reparti dans une crise sanitaire qui fait que on a enlevé toute la partie d'interactivité dans les groupes de travail, puisque tout se passait en visio et que, évidemment, c'était moins intéressant et moins suivi, et en tout cas moins attractif pour les citoyens. Et puis j'en finis par là, pardon, mais quand on est un citoyen tiré au sort et qu'on arrive dans un groupe de travail où il y a des parlementaires nationaux, des sociétés civiles qui sont souvent des porteurs, des lanceurs d'alerte, des porteurs de cause, mais qui ont les moyens de les porter, des parlementaires européens, des membres de la Commission, des membres du Conseil, eh bien, on est un citoyen qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas de plateforme technique, il n'a pas de collaborateur, oui. Il n'a pas de moyens pour pouvoir, à un moment donné, travailler de manière très autonome. Et du coup, ça aussi explique le fait que les citoyens sont méritants.
Ben voilà quelques enseignements de la démocratie participative. David Cormand, rapidement, ces propositions là de la Convention citoyenne, par exemple, le vote des 16 ans, ça va devenir quoi? Parce qu'on a reproché, par exemple, à la Convention sur le changement climatique de ne pas être reprise intégralement. Là, les propositions, elles vont devenir quoi?
Écoutez, là, au niveau en France, c'était une volonté politique qui fait que ça ne s'était pas traduit. Là, il y a deux types de propositions. Il y a des propositions qui nécessitent un changement des traités et il y a des propositions qui ne nécessitent pas forcément un changement des traités. Pour ce qui ne relève pas des changements des traités, c'est comme en France, c'est la volonté politique. Faut que les instances qui vont décider, le Conseil, je pense que le Parlement européen, il est chaud. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment voté, il a même voté la semaine dernière une initiative pour commencer à discuter du changement des traités. Ceux qui résistent, c'est la Commission, parce qu'ils ont des habitudes de travail, c'est pas qu'ils sont méchants, si vous voulez, mais ils ont des habitudes de travail, ils aiment pas trop qu'on vienne tripatouiller dans leurs affaires. Et il y a le Conseil, où là, c'est le pouvoir des États-nations, les bons vieux États-nations, qui, eux, considèrent que, au fond, l'Europe, c'est aussi à eux. Donc, vous voyez, il y a une tension dans les rapports de force, dans les pouvoirs, qui font que c'est compliqué. Vous avez dit tout à l'heure que les chefs d'État, ils étaient élus pour s'occuper de l'Europe. Oui et non. Quand vous votez aux élections françaises, en vrai, vous trouvez qu'on a beaucoup parlé d'Europe. Et pourtant, on présidait l'Europe pendant cette élection présidentielle. Les gens, ils votent pas pour ça. Le seul moment où ils votent pour les européennes, c'est au moment des élections européennes. Et dans toute démocratie normale, vous votez pour les parlementaires et après, ils nomment un gouvernement qui est responsable devant la représentation parlementaire. Enfin, c'est le truc classique. Là, c'est pour ça que je parlais de démocratie inachevée. C'est qu'on est dans un truc intermédiaire. On n'a pas encore fait le saut fédéraliste qui permettrait de faire plus de démocratie. Donc, il y a des trucs qu'il faut faire. C'est la liste transnationale. Ça, c'est très bien. Parce qu'il y aura quelques députés qui seront élus au niveau transnational, au niveau européen, et ça leur donnera une légitimité, les têtes de liste de ces listes, démocratiques, pour dire ça sera pas un tripatouillage pour savoir qui présidera la commission.
Allez, des gens là. Je voudrais qu'on aborde les autres sujets, David Cormand. Du coup, quand Emmanuel Macron dit hier devant les parlementaires à Strasbourg, faut réformer les traités, vous applaudissez?
Oui, il faut réformer les traités, mais enfin, c'est pas le premier à le dire. Les écologistes, ça fait 30 ans qu'on le dit. Les gens de gauche, ça fait des années qu'ils le disent. Tout le monde sait, à part ceux qui sont les plus libéraux, que ces traités posent des problèmes. Et d'ailleurs, ils sont même plus applicables. Regardez, depuis la crise du Covid, on s'est assis dessus. Parce que le réel, c'est quand on se cogne. Donc on est toujours soumis à des règles idéologiques, en réalité. C'est pas des règles qui sont...
Mais quelles règles? Soyez concrets. Quelles règles, par exemple, ne sont plus applicables aujourd'hui?
Les 3%. Le traité budgétaire des 3%, elles n'ont pas été, heureusement, appliquées.
Donc l'Europe sait faire preuve de souplesse, peut-on vous dire?
Mais oui, mais il faut qu'elle se soit permanente, que ce soit pas lié à une crise pandémie mondiale qui tout d'un coup nous met en situation de difficulté telle que on déroge au traité budgétaire. L'Europe n'est pas là pour empêcher le progrès social, le progrès environnemental, le progrès climatique. Il doit s'adapter et il l'a fait pendant l'Europe l'a fait pendant la pandémie et donc les institutions doivent s'adapter aux réalités d'aujourd'hui.
Et
les
aussi...
réalités d'aujourd'hui, elles sont portées. Et pardon, j'en finis par là. Quand on lance une consultation citoyenne, vous disiez où ça va aboutir. Eh bien, c'est très dangereux de penser que ça peut aboutir à rien. Et je le dis ici à votre micro, comme je le dis depuis des mois et des mois. On réunit une conférence, on demande à cette conférence, à ces gens de travailler. Les panels de citoyens se réunissent, travaillent dans les conditions que je vous ai rappelées tout à l'heure. Et la première chose dont ils sont à peu près unanimes, avec le Parlement et soutenu par le Parlement la semaine dernière, c'est la révision des traités. Parce que si on ne veut pas déroger, il vaut mieux réviser. Pour mieux d'environnement, pour mieux de protection de la planète et pour mieux de progrès social.
Nourin Bebarek, David Cormand, avant d'entendre Alain au standard, dans l'accord de la gauche unie, les questions, alors l'accord avec les socialistes de déroger à certaines règles, l'accord avec les écologistes de désobéir à certaines règles. Désobéir à qui et à quoi précisément ?
Nous, ce qu'on a mis dans cet accord, c'est alors d'abord, un, quand on est écolo, désobéir, c'est pas la fin du monde. Hein. On l'a fait quand il y a les champs d'OGM, on l'a fait à Notre-Dame-des-Landes, et donc c'est la vie. Quand vous voulez faire évoluer les choses, si vous faites béni oui-oui à tout, vous bougez rien. Là, en l'occurrence, on parle d'autre chose. On parle éventuellement des traités européens. C'est pour ça que dans notre accord, on a mis dans le respect l'état de droit. C'est quoi l'état de droit ? C'est la hiérarchie des normes. Ça veut dire que vous respectez le fait que le droit européen est supérieur au droit français. Et sur la désobéissance, qui a l'air d'exciter tout le monde. Je vous le dis à vous, parce que c'est vous qui nous interrogez.
Oui, et parce que certains y voient en fait une façon de défaire l'Europe petit à petit.
Mais non, mais le problème, c'est que ce qui défait l'Europe, un, c'est le statu quo. Deux, aujourd'hui, la France désobéit aux règles européennes. Quand on respecte pas les règles de qualité de l'air, on est pénalisé, sanctionné par l'Europe. Donc Emmanuel Macron, il désobéit à l'Europe sur les questions de pollution de l'air. Il désobéit à l'Europe sur les questions des chasses cruelles. Il désobéit à l'Europe sur un certain nombre de sujets. Là, récemment, sur les règles en matière d'agriculture. Et le ministre de l'Agriculture actuel, monsieur de Normandie, dit « Ah bah ça, moi, je vais pas le respecter ». Donc vous voyez bien que la question de mettre un rapport de force quand vous êtes la France, c'est nécessaire. Et là-dessus, je voudrais dire une chose.
En un mot, parce que je voudrais qu'on aille au standard.
Ouais, depuis 2005, il y a un schisme dans la gauche française depuis le non sur le TCE.
Ce schisme traité constitutionnel, le non référendum de 2005.
Celles et ceux qui nous écoutent se rappellent peut-être. Ouais. Où, au fond, on a laissé d'un côté la gauche déchirée entre ceux qui étaient devenus eurosceptiques et ceux qui apparaissaient peut-être trop bénis oui-ouistes. Et là, aujourd'hui, on fait une nouvelle synthèse qu'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, avait fait en 2009 avec Dany et José. Entre eux, où c'est la gauche et l'écologie française qui est de retour en Europe. On dit, nous, la France, grand pays européen, on veut peser pour faire progresser l'Europe, y compris en mettant un rapport de force. C'est ce volontarisme-là qu'on est en train de faire dans cette synthèse qui me paraît dynamique.
Alain...
Et donc je pense que, et aujourd'hui, ceux qui râlent, c'est ceux qui sont les partisans du statu quo, en grande partie.
Alain, au standard de France Inter. Alain, bonjour.
Oui, bonjour aux deux députés. Alors, moi, je m'intéresse à l'argent et je vois que les députés n'en parlent pas beaucoup. Que pensez-vous de la gestion de la BCE vis-à-vis des dettes des différents États, et notamment celle de la France, qui est de très loin la plus endettée, hormis la Grèce, évidemment, et quel contrôle politique en avez-vous, vous, au niveau de l'Europe? Et éventuellement, vous pouvez, si vous avez le temps, parler de la transition écologique dont l'emprunt qui est prévu va encore augmenter cette dette.
Alors, on va rester sur la dette, si vous le voulez bien. Qui veut répondre? Est-ce que la dette française est un problème pour vous, député européen?
Non, mais non. En fait, la dette, c'est ni un totem, ni un tabou. Ce dont on nous parle,
115% c'est... 115% et des taux d'intérêt qui remontent, hein, c'est ça le contexte.
Oui. La Banque Centrale Européenne, elle est dite indépendante. Donc en fait, pour répondre à Alain, le pouvoir politique, c'est d'ailleurs un sujet parlementaire, démocratique, n'a pas de contrôle sur la Banque Centrale Européenne. Néanmoins, la Banque Centrale Européenne, elle a ce que l'on appelle un mandat. Le mandat, il est décidé par les différentes institutions pour dire « voilà ce qu'on vous demande de faire ». Parce qu'elle est indépendante, mais elle n'est pas apolitique, la Banque Centrale Européenne. Mmh. Elle a des avis sur comment il faut gérer l'économie. Ah, c'est pas le Saint-Esprit qui décide des trucs. Donc en fait, il y a des mandats. Et donc nous, ce qu'on demande, y compris dans l'accord que l'on a, c'est de renégocier le mandat de la BCE pour que ce soit pas seulement aujourd'hui, comme aujourd'hui, un critère par rapport à l'inflation, vous parlez des taux qui remontaient,
oui, oui,
mais aussi des critères en matière sociale, national en matière environnementale et en matière de transition. Non. Ça qui est des critères aussi politiques. Et de ce point de vue-là, la dette, ce qu'on appelle la dette, il y a plein de façons de la gérer, notamment de la faire rouler. La banque centrale et l'euro, c'est une monnaie qui a aussi, qui suscite une grande confiance. Donc vous pouvez faire aussi, vous pouvez construire de la monnaie pour rembourser votre dette. Mais plus important, parce que Alain a raison de dire qu'il faut qu'on parle d'argent, c'est qui paye. Et moi, il faudrait pas qu'Alain y pense et que les gens qui nous écoutent pensent qu'on va résoudre le problème uniquement par la dette. Il faut faire payer les riches. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est
David,
qu'aujourd'hui,
comment
avec les gilets jaunes, c'est les contribuables captifs qui payent. Or, aujourd'hui, l'Europe, elle a la masse critique pour faire payer la taxe sur les transactions financières.
Je voudrais garder quelques secondes parce que vous êtes à distance, c'est pas facile. Pour une dernière question à Nora Mebarek, il y a eu cette tribune de trois anciens députés européens, Bessé, Bové, Cohn-Bendit, sous couvert d'un pseudo non-alignement renvoyant dos à dos agresseurs et agressés dans le conflit ukrainien. Il s'adresse à tous ceux qui ont signé avec LFI. Vous avez signé un accord avec ceux qui cultivent l'ambiguïté à l'égard des valeurs démocratiques. Voilà, en pleine guerre en Ukraine, est-ce que vous êtes pas mal à l'aise d'avoir signé un accord avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est pas très net vis-à-vis de l'OTAN, par exemple?
Alors non, je suis pas du tout mal à l'aise parce que dans tout rassemblement, coalition, appelez-le comme vous voulez, il y a plein de convergences, ce qui a été rappelé tout à l'heure et par mon collègue et par moi, et puis quelques divergences en ce qui concerne l'Ukraine. Moi, pour ma part, j'ai voté l'ensemble des aides et soutiens à l'Ukraine et je continuerai. Et en ce qui est de pour quitter l'OTAN, je crois qu'il y a une nuance à apporter, notamment dans ce moment particulier. Il me semble inenvisageable d'en débattre et encore moins de sortir de l'OTAN.
En tout cas, c'est pas aujourd'hui. Un sujet assez important de votre point de vue pour faire rupture.
Ce n'est pas un sujet assez important pour faire rupture. Quand on a un projet politique qui le 19 juin prochain sera ou protecteur pour les retraites, pour le pouvoir d'achat, pour le minimum vieillesse, pour les jeunes, pour la prise en charge de la transition écologique face à une politique qu'on connaît déjà et qui va en plus augmenter en termes de d'agressivité pour les plus fragiles et les plus faibles. Donc le peuple a parlé, je crois, hein, et comme on est très démocrate, notamment au Parlement européen, mais pas que, les Français sont démocrates, ils ont parlé au premier tour de l'élection présidentielle.
Merci.
Et demain le débat sera là. Voilà.
Et ils parleront législative également.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux et merci à Pierre Benazet qui nous a permis de vous entendre depuis Bruxelles.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans un instant le feuilleton avec la cycliste Valentine Fortin et dans 10 minutes le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Allô Macha.
Quelques beaux oiseaux de nuit dans la chronique. Ok, à tout à l'heure. La nuit aussi, non, c'est une chanson tout de suite. Avec vous, Aline Afanouko, et bonjour.
Bonjour Bruno,
Vous nous emmenez au cabaret Madame Arthur. Et à votre micro aujourd'hui, un des personnages de la troupe de travestis du cabaret, Billy Larme à l'œil. Sa chanson parle de nuit, elle est signée Alain Bachung.
Billy Larme à l'œil est né en 1990 d'une union improbable entre Francis Cabrel et Amanda Lear, inspirée par les figures de Pierrot et d'Orphée. Une créature lunaire formée au jazz qui pousse la chansonnette depuis 2019 dans ce lieu culte devenu sa deuxième maison. La nuit, je mens, lui va comme un gant de velours et de paillettes.
Bah en fait, c'est une chanson qui me touche énormément parce que le texte est très poétique, la musique est très mélancolique. Je m'appelle Billy Larme à l'œil, donc je crois qu'il y a un petit lien d'émotion. Et puis, ce que j'aime aussi dans le texte, c'est que moi, je travaille la nuit. C'est le moment où je déploie mes ailes, c'est le moment où je partage énormément de choses avec le public. Et... en même temps, c'est du coup un moment plein de joie, plein d'émotions. On accueille au cabaret les errances, les joies, les attentes, les peines du public. Et il y a un vrai partage dans cette nuit que je trouve est un peu un défouloir. Et c'est ça qui me touche en fait dans la nuit. Et puis j'ai un rapport un peu ambivalent à ce moment-là parce que c'est aussi... un moment où, quand je suis seule, ça peut être des doutes, les incertitudes, et c'est ça dont il parle aussi Alain Bachung dans cette chanson. Donc, c'est vraiment cette dualité-là qui me plaît beaucoup dans La nuit, je mens.
Est-ce que c'est la chanson de votre histoire personnelle? Est-ce que ce serait comme une chanson autobiographique que vous n'auriez pas écrite?
Bah oui, je crois que je me reconnais un petit peu là-dedans. Après, le mot mensonge, pas vraiment, parce que. Je mens pas quand je travaille et quand je chante. Je crois que on invente, mais qu'on ment pas vraiment. Mais en tout cas, ouais, cette incertitude-là, cette angoisse-là, c'est quelque chose que je ressens.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine.
La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Alain Bachung, La nuit je mens, dans C'est une chanson aujourd'hui, Aline.
Une chanson fondatrice pour Billy Larme à l'œil, Papillon de nuit, dont les performances entre ombre et lumière s'inspirent de la rêverie et de la poésie de Bachung. Une chanson qui l'accompagne au quotidien, de jour comme de nuit.
C'est marrant parce que c'est une chanson aussi que j'ai entendue pendant les confinements où j'allais faire mes courses au Franprix puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et je me souviens être face au rayon bière et que cette chanson se met à cracher dans les haut-parleurs et je me mets à pleurer parce que ça m'a trop touchée de l'entendre là et puis que ça m'a ramenée à quelque chose d'une grande solitude. Et j'étais avec mon amoureuse à ce moment-là dans le rayon, on s'est regardé les larmes aux yeux, on a pleuré, puis après on a rigolé, puis après on a continué à faire les courses, puis on est reparti. Enfin, c'était assez perturbant comme moment et c'est misérable et drôle en même temps. Et c'est marrant que ce soit cette chanson à ce moment-là, je crois. Elle me suit beaucoup, en fait.
Et elle vous fait toujours le même effet ?
Oui, elle m'émeut tout le temps. C'est une chanson, par contre, que je chante au cabaret, parfois. Et c'est toujours un moment... J'ai l'impression de prendre une voiture et de rouler très longtemps et très loin dans la nuit, en fait, quand je chante cette chanson.
La nuit je mens de Bachung, évoqué par l'artiste transformiste Billy Larme à l'œil, que l'on retrouve au cabaret Madame Arthur à Paris.
Et cette semaine jusqu'à samedi, Madame Arthur s'attaque au cinéma, l'occasion de transcender le 7e art à sa manière, avec un spectacle inédit, chanté en direct. Et comment ne pas penser à la reine de la nuit, Régine, qui s'en est allée à l'âge de 92 ans, et à qui ce cabaret, né il y a 75 ans, rend également hommage. La fête n'est pas finie, Bruno, sortez les poids, les paillettes, le boa.
À demain, Aline.
À demain.
Et dans le feuilleton depuis hier, nous suivons la première année de la cycliste Valentine Fortin chez les professionnels. Équipe Cofidis, elle prépare le Tour de France féminin. À quoi ressemble la vie d'une cycliste pro ? Valentine Fortin avec Fanny Lechevestrier.
Valentine, on rappelle, vous avez que 22 ans, c'est votre toute première saison professionnelle. C'est fidèle les premiers mois à ce que vous imaginiez, où il y a des surprises ?
Non, c'est assez fidèle. Après, j'ai pu bien rouler la fin d'année dernière sur des classes 1 en Bretagne. Après, il y avait moins de niveau que ce que j'ai pu faire cette année. Puis le niveau a quand même énormément évolué. Depuis quelques années, il ne fait que augmenter. C'est pas facile, hein, les premières courses, enchaîner tous les week-ends. Là, j'ai déjà quasiment 12 ou 13 jours de course. L'année dernière, j'en ai eu 10 en tout. Donc ouais, c'est faut enchaîner, faut encaisser. C'est sûr, je savais que j'allais pas être devant direct, hein, on le sait très bien. Et non, c'est pas ce qui me surprend le plus, mais moi ce que j'ai envie, c'est qu'on progresse. Et voilà, on sait ce qui nous reste à boucher, en fait. Comme trop, on voit le gap qu'on a à faire. Et c'est que ça fonctionne bien en équipe en premier. En fait, pour combler ce gap, on a besoin que l'équipe fonctionne bien aussi.
Vous imaginiez ce rythme effréné aussi, vous êtes tout le temps en vadrouille, d'hôtel en hôtel. Vous avez compté ça, les jours passés hors de la maison, ou les jours passés à la maison finalement?
Ben, en fait, je suis partie février-mars, donc 2 mois de suite. Je suis rentrée 5 jours entre. Entre ma double activité sur la piste, j'enchaîne vraiment. Là, après Paris-Roubaix, j'enchaîne directement avec la Coupe du Monde à Glasgow. Donc non, je sais pas combien je suis, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est entre guillemets la vie que j'ai décidé de mener. Je suis étudiante en parallèle, donc c'est sûr, faire cette triple activité du coup entre études, pistes et routes, c'est pas facile, hein, mais c'est comme ça, c'est mes choix et je sais pourquoi je les ai faits. Après, je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, donc c'est maintenant ou jamais en fait si je peux vivre ça, donc c'est pour ça que je le fais à fond. Je suis à l'école de commerce de Grenoble, donc c'est un cursus spécifique pour les sportifs de niveau. Il y a plein de skieurs, des rugbyman, des footballeurs, il y a un peu de tout. Je fais licence, master 1, master 2 en 4 ans au lieu de 3. Et c'est vraiment idéal pouvoir faire le sport de haut niveau. Si je n'avais pas cette opportunité de pouvoir continuer mes études à distance, je ne sais pas si je serais là sur le vélo aujourd'hui.
Pourquoi ?
Parce que c'est important pour moi de faire des études. C'est quelque chose que j'aime bien apprendre, rencontrer des gens, discuter. C'est vraiment quelque chose qui m'enrichit et Ça me permet aussi de sortir un peu du vélo, comme le vélo me permet de sortir de mes études, parce qu'on mange vélo, on dort vélo, on fait tout vélo, mais voilà, on a ces études à côté qui nous font avoir une vie normale, de fille normale de mon âge. Disons que je réussis bien dans le vélo et les études. Évidemment, on peut toujours faire mieux, hein, mais je ne sais pas si sans l'un ou sans l'autre, je réussirais aussi bien en fait. Je vais finir mes études d'ici un an et demi. Après, j'aurai encore un an avant Paris 2024. Mais j'ai pas envie d'arrêter mes études, en fait. J'ai envie de continuer à me former et à apprendre, à défaut de pouvoir avoir un travail à côté. C'est mon équilibre, ouais.
Le feuilleton Fanny Lechevestrier au reportage et Lucie Lemarchand à la réalisation. Nouvel épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
Nous replongeons donc dans les nuits avec votre vif de l'histoire Jean Lebrun à l'affiche au cinéma en ce moment, Les Passagers de la Nuit, film qui raconte l'histoire d'une femme dans les années 80 qui entre comme standardiste à Radio France pour une émission très tardive tenue par une certaine Vanda qui rappelle Macha Béranger. Et c'est l'occasion pour vous Jean d'évoquer ce que fut la haute époque des directs nocturnes à la radio.
Grâce à un livre très documenté, Marine Beccarelli, Micro de nuit. Alors, l'histoire de la radio, souligne-t-elle, c'est d'abord une histoire des techniques. Si les micros de nuit ont tant attiré Macha, à 0 heure, au meilleur moment, 500 000 auditeurs, c'est qu'on a su les rendre sensibles aux inflexions de la voix, celle d'Aline, par exemple, qui a pratiqué la nuit. C'est aussi parce qu'est survenu le transistor. Adolescent, jeune Bruno, nous pouvions ainsi écouter sous les draps la joue contre la voix qui sortait de notre poste et qui nous parlait à nous personnellement. Il a fallu aussi la généralisation de l'autoradio et du téléphone qui a permis par exemple de faire route de nuit sur Inter, puis sur RTL, les routiers sont sympas. Le premier film à faire apparaître Macha était signé Claude Ventura. Il montrait un gardien de parking qui d'une main lui téléphonait « Allô, Macha ?» et de l'autre tendait un ticket à une voiture qui sortait et le conducteur montait le son de l'autoradio. C'était « Allô, Macha ?»
Et « Passager de la nuit », c'est au moins le troisième film où figure, entre guillemets, Macha Béranger.
Alors que, et le livre de Marine Beccarelli a raison de le rappeler, elle n'est pas la première à tenir le rôle de grande oreille attentive. Il y a eu d'abord Gonzague Saint-Brie, ligne ouverte sur Europe 1 dès 75 jusqu'en 80. Une glossienne de Satie servait de générique, puis Saint-Brie, plus neutre, moins intervenant que Macha, laissait entendre une voix anonyme. Il reste de sa ligne ouverte beaucoup moins d'archives que de Macha, mais Saint-Brie rappelait que, à l'écouter, il y eut parmi ses intervenants une caissière de cinéma porno, une jeune fille heureuse d'avoir fait l'amour pour la première fois et même un cambrioleur qui avait interrompu son travail parce que l'appartement était très tranquille.
Et l'avantage des émissions nocturnes, c'est qu'elles permettaient la confidence parce qu'elles se déroulaient sans témoin.
Mais non, Marine Beccarelli signale que nombre d'entre elles accueillirent du public, à commencer par Macha. Les règles de sécurité n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Le pop club de José Arthur se tenait dans le fameux bar noir de la Maison Ronde, qu'on pouvait rejoindre à peu près comme on voulait. Être accompagné d'une bouteille d'alcool facilitait le passage. Une nuit, dans ces années 70, un membre du SAC, une officine d'extrême droite, entra même avec un poignard et un pistolet, menaçant de tuer tout le monde. Et, en 74, sur RTL, la prise d'otage par un auditeur de Max Meynier, l'animateur des routiers sont sympas, fut très spectaculaire. Elle dura de 23h à 3h, la direction d'antenne n'ayant d'autre choix que de maintenir le direct.
Et cette nuit-là, le suspense tint l'auditeur en éveil. La règle était plutôt de le laisser aller à la rêverie.
Jean Couturier a produit sur France Culture Écriture de nuit. Pas de présentation au début, ni d'ailleurs de fin. Ça se tenait au bord du sommeil, ou aussi bien au milieu, dans l'incertain. Vous interveniez à 3h du matin pour un flash ?
2h, 3h, 4h.
Il arrivait à Macha de dégrafer son corsage devant le journaliste à cette heure-là. Mais José Arthur, lui, soutenait que le jour, on entend seulement, alors que la nuit, on peut mieux écouter. Dans l'obscurité, l'oreille est comme l'œil perçant d'un chat. Et en effet, les choses de la nuit, l'émission de Jean-Charles Asquerot, méritent d'être vues parce qu'elles avancent souvent nues.
Oui, mais après l'âge d'or, les dirigeants des radios ont dit « ne te promène pas toute nue ».
Oui, mais c'est pas la sensualité ni l'érotisation progressive des programmes qui leur ont nui, mais la concurrence de la télé nocturne, du magnétoscope, aujourd'hui des plateformes de films et de séries, et les mille et une ressources du podcast. Le préfacier de Marine Beccarelli, Pascal Horry, écrit « La dernière liberté des auditeurs, ça a été d'aller chercher ailleurs.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, et donc on se réfère au Passager de la nuit de Michael Kers pour le cinéma avec Charlotte Gainsbourg, et pour les lecteurs donc Marine Beccarelli, Micro Nocturne, histoire de la radio de nuit en France, c'est aux presses universitaires de Rennes. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre, vous avez bossé la nuit, vous, à la radio ?
Oui, absolument, enfin le matin, très très tôt.
Le matin, très très tôt. Ouais. Bon, pour l'instant c'est 14h, quel est le programme aujourd'hui ?
On s'occupe de nos assiettes pour une écologie de l'alimentation.
À tout de suite. Ouais.